Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce lundi 20 novembre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Elon Musk cédant aux lobbies sionistes met en garde contre la criminalisation des contenus pro-palestiniens ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Washington met le feu aux poudres dans la guerre de Gaza selon le ministre iranien des Affaires étrangères. Des dizaines de morts dans les frappes israéliennes contre l'hôpital indonésien de Gaza et le Venezuela soutient un embargo pétrolier sur Israël via l'OPEP. C'était les principaux titres, en voici le détail. Lors d'une conversation téléphonique ce dimanche 19 novembre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue russe, Sergei Lavrov, ont discuté des derniers développements dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Les États-Unis prétendent vouloir arrêter la guerre d'Israël, mais en pratique, ils attisent la guerre américano-sioniste, a déclaré Amir Abdollahian. Le massacre de milliers de civils, dont des femmes et des enfants, et le meurtre de dizaines de prisonniers à Gaza sont le résultat des bombardements aveugles d'Israël, a-t-il indiqué, avant de souligner l'urgence de contrecarrer le nettoyage ethnique et le déplacement forcé des habitants de Gaza et de la Cisjordanie. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a regretté qu'Israël s'oppose à la fin des atrocités à Gaza. Il a pourtant appelé à la poursuite des consultations pour mettre fin à la guerre et libérer les prisonniers. Au moins 15 Palestiniens ont été tués dans les frappes directes des forces israéliennes contre l'hôpital indonésien, l'un des plus grands hôpitaux du nord de Gaza, alors que l'agression brutale contre la bande assiégée entre dans son 45e jour. Les forces israéliennes ont ouvert le feu et lancé des frappes d'artillerie sur l'hôpital indonésien et ses environs aux premières heures de ce lundi 20 novembre. Des rapports indiquent que les forces israéliennes vont répéter ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa et occupent également l'hôpital indonésien alors que les chars encerclent l'endroit. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yann Gil Pinto, a annoncé dimanche le soutien de son pays à l'imposition d'un embargo pétrolier sur Israël en réponse aux attaques barbares du régime de Tel Aviv contre Gaza et aux crimes contre le peuple palestinien. Dans un communiqué, Yann Gil a qualifié la situation à Gaza de catastrophique et de violation des accords internationaux sur le droit humanitaire. Il a réaffirmé que le Venezuela appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Il a précisé que Caracas n'exporte pas actuellement de pétrole vers Israël et n'entretient pas de relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Cependant, il a souligné que son pays était prêt à soutenir toute mesure adoptée au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pour remédier à la situation à Gaza. Direction l'Iran, où un non-commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les États-Unis ont été contraints de prendre en main le contrôle d'Israël qui a été détruit par les combattants de la résistance palestinienne basée à Gaza lors de leur dernière opération contre l'entité occupante. S'exprimant dimanche, le commandant adjoint de la force Quds du CGRI, le général de brigade Mohammad Reza Fallahzadeh, a déclaré « Les forces de résistance palestiniennes ont brisé la dignité de leadership de l'ennemi sioniste et ont perturbé et détruit le dôme intellectuel de l'ennemi dans le domaine de la gestion. Ainsi, les États-Unis ont été contraints de prendre la direction du régime. » Il a également noté que la résistance palestinienne avait réussi à faire s'effondrer le système de renseignement israélien, à vaincre son armée et à nuire à sa sécurité. Le commandant du CGRI a en outre souligné que le régime sioniste n'a rien obtenu dans ses agressions massives, ses bombardements, ses tirs d'artillerie et ses attaques directes de chars et de véhicules de transport de troupes contre la bande de Gaza assiégée. Direction le Yémen, où les forces navales du pays ont réussi ce dimanche 19 novembre à saisir un cargo israélien au large de la mer Rouge, a rapporté la chaîne libanaise Al-Mayadin. Selon le rapport, les 52 membres de l'équipage du cargo israélien Galaxy Leader ont été arrêtés. L'équipage du cargo et les personnes à son bord font actuellement l'objet d'une enquête pour que leur nationalité soit vérifiée par les forces yéménites compétentes, ajoute le rapport. Précédemment, le mouvement yéménite Ansar Allah a averti qu'il ciblerait tous les navires israéliens dans les eaux régionales, incluant les navires détenus ou exploités par des sociétés israéliennes ou battant pavillon israélien. Le porte-parole de l'armée yéménite, le général Yahya Sari, avait déjà appelé dans un communiqué tous les pays à évacuer leurs citoyens de ces navires et leur a déconseillé de les utiliser pour transporter des marchandises. Le communiqué exhortait les pays à avertir ces navires de s'éloigner de leurs ports. Elon Musk, cédant aux lobbies sionistes, met en garde contre la criminalisation des contenus pro-palestiniens. Elon Musk, le milliardaire propriétaire de X, anciennement Twitter, peut être outrageusement imprévisible. Il a montré à de nombreuses reprises ces dernières semaines en invoquant adroitement des mots comme « génocide ». Au risque d'énoncer une évidence, quiconque prône le génocide de n'importe quel groupe sera suspendu de cette plateforme, a écrit samedi le fondateur de SpaceX et de Tesla qui a acheté X l'année dernière. En réponse, les utilisateurs des réseaux sociaux l'ont interrogé et lui ont rappelé de nombreux sionistes qui appelaient ouvertement au génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée le 1er juillet. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas suspendu ce sioniste génocide, a demandé Jackson Hinkle, un influenceur des médias sociaux qui a tweeté avec ferveur en faveur des Palestiniens ces dernières semaines. Hinkle faisait référence à un utilisateur X nommé Yaka Wolf qui a publié un message profondément provocateur sur X. Aplatissez tout, n'épargnez aucune école, aucun hôpital pour enfants, aucune maison de retraite, supprimez l'intégralité de leur patrimoine génétique de la surface de la Terre, a écrit le fauteur d'un sioniste. Musk n'a eu aucune réponse à Hinkle ou aux autres utilisateurs de X qui ont répondu à son tweet. Le patron de X faisait écho à ce qu'il avait tweeté plus tôt samedi au milieu de la controverse qu'il avait suscitée avec un autre tweet jugé antisémite par les lobbies pro-israéliens à Washington. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, décolonisation du fleuve à la mer et autres euphémismes similaires impliquent nécessairement un génocide, a tweeté Musk dans une claire tentative d'apaiser le lobby sioniste. Les appels clairs à une violence extrême vont à l'encontre de nos conditions de service et entraîneront une suspension. Ces tweets sont intervenus après que l'Union européenne appelle Disney, IBM, Lionsgate, et autres ont annoncé qu'ils arrêteraient les publicités sur X en raison des publications antisémites de Musk. Cela a été un choc brutal pour Musk, puisque son réseau de médias sociaux aurait connu une baisse de 54% de ses revenus publicitaires depuis qu'il a pris ses fonctions, alors que les revenus publicitaires représentaient auparavant 90% des revenus totaux du géant des médias sociaux. Plus tôt cette semaine, Musk a approuvé un message de l'utilisateur Breaking Bad qui disait que les communautés juives ont poussé le type exact de haine dialectique contre les Blancs qu'elles prétendent vouloir que les gens ne cessent d'utiliser contre eux. La vraie vérité, a répondu dans un tweet la personne la plus riche du monde. Outre les annonceurs fuyant Musk, la Maison Blanche a également publié une déclaration ferme, clairement sous la pression des groupes de pression pro-israélien aux États-Unis. Nous condamnons dans les termes les plus forts cette odieuse promotion de la haine antisémite et raciste qui va à l'encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu'Américains, a déclaré vendredi un porte-parole de la Maison-Blanche. La Commission européenne, dans un communiqué publié vendredi, a également annoncé qu'elle suspendait les publicités en raison de l'augmentation alarmante de la désinformation et des discours de haine. Il s'agit de campagnes publicitaires. Pour celles-ci, nous évaluons et examinons en permanence l'environnement médiatique de nos campagnes en fonction de nos objectifs de communication, a-t-il déclaré. Piqué par les critiques croissantes, Musk a pris du recul et a averti que les contenus pro-palestiniens seraient suspendus ou, en d'autres termes, ceux qui appellent à la fin du génocide israélien à Gaza seraient punis. Alors que les partisans du génocide, comme ceux qui appellent à raser les écoles, les hôpitaux pour enfants et les maisons séculaires dans la bande de Gaza assiégée, ont leurs comptes ouverts sans aucune restriction, ceux qui appellent à l'arrêt de l'effusion du sang et de l'occupation vont être suspendus par Musk. Les premières voix qui devraient être censurées sont celles qui appellent au génocide des Palestiniens, acclamant la machine à tuer sioniste alors qu'elle poursuit sa campagne meurtrière dans la bande de Gaza assiégée. Musk, qui s'est présenté comme un défenseur de la liberté d'expression, doit se placer du bon côté de l'histoire.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour en ce samedi 18 novembre. Alors, on va s'intéresser, comme à l'accoutumée ces derniers jours, sur les évolutions palestiniennes. Les évolutions amères et tragiques, catastrophiques, qui se déroulent en Palestine, plus précisément dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée aussi. Avec ce récit de la prise de l'hôpital Al-Shifa par l'armée israélienne, avant de dire bonjour à nos deux invités, je vous propose un récit sur ces dernières évolutions. On se retrouve tout de suite après. Restez avec nous.
L'armée israélienne fait face à une situation d'usure dans son offensive terrestre contre Gaza. Ces derniers jours, les commandants de l'armée sioniste se sont dit préoccupés par la capacité balistique de la résistance palestinienne. Ils ont estimé que les forces de l'armée israélienne faisait face à une situation d'usure dont l'opération terrestre risque de s'affaiblir encore davantage. Plusieurs experts et commentateurs au milieu sioniste ont mis en garde contre l'état d'érosion des forces terrestres du régime d'occupation dans la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a pas pu prendre le contrôle de la ville de Gaza et les commandants s'inquiètent d'une série de menaces possibles, dont la plus importante concerne les missiles anti-chars palestiniens. Dans un article publié dans le journal sioniste Haaretz, Amos Harel, expert des affaires militaires, a déclaré que l'armée israélienne était toujours confrontée à de nombreux problèmes dans son opération terrestre à Gaza, qui l'empêche de dominer entièrement cette zone et pour cette raison, elle n'a pas pu prendre le contrôle de Gaza. L'expert militaire israélien a par ailleurs évoqué le changement météorologique et la pluie qui entrave l'avancement des militaires israéliens et de souligner les dangers qui menacent les forces israéliennes. À Gaza ne se limite pas pourtant aux problèmes météorologiques. Une quinzaine de jours après la présence terrestre à Gaza, on craint que les forces ne s'épuisent. En plus, le commandant de l'armée s'inquiète fortement des missiles anti-chars des Palestiniens et des forces israéliennes pourraient être prises dans des pièges explosifs. L'article rappelle que Gaza est une ville densément peuplée et des tirs contre les forces israéliennes depuis des immeubles à plusieurs étages suscitent également des inquiétudes. De nombreux bâtiments à Gaza ont été endommagés par les frappes aériennes, mais ils sont toujours debout et l'on craint que le Hamas ne déploie ses tireurs d'élite sur ces bâtiments. Selon cet article, l'armée israélienne n'a pas encore réussi à mener d'opérations dans les quartiers situés à l'est et au centre de Gaza et tente toujours de découvrir les tunnels du Hamas. L'armée israélienne a pénétré mercredi dans l'hôpital où cet IA abritait de nombreux civils sans fournir la preuve que l'établissement avait un usage militaire. C'était le centre névralgique d'une ville d'un million d'habitants, désormais dépeuplée et détruite. En pénétrant mercredi 15 novembre dans Al-Shifa, le principal hôpital de Gaza, l'armée israélienne a signifié aux derniers Palestiniens encore présents dans cette ville qui n'y disposait plus d'aucun refuge. 6 semaines de bombardements massifs et indiscriminés, puis une opération terrestre menée lentement et méthodiquement à partir du 13 octobre, ont déjà en partie détruit cette ville côtière. Au 16 novembre, l'autorité de santé de l'enclave anciennement administrée par le Hamas dénombre au moins 11 000 morts et 1,6 million de déplacés.
Voilà, c'est confirmé. Le régime sioniste renvoie ces jours-ci une image désastreuse d'apartheid, de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Aucun otage, selon leurs mots, retrouvé. Pas de Hamas dans l'hôpital Al-Shifa, alors que c'était censé être leur, disons, QG des forces de la résistance palestinienne, selon les propagandes de la machine de guerre israélienne. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau à distance Madame Aïssar Midani, scientifique analyste politique syrienne. Bonjour Madame.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe, à votre invité et à surtout tous les téléspectateurs.
Merci. Bonjour également à Jean-Maxime Corneille, analyste politique en intelligence économique et questions stratégiques depuis Versailles, la France. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Corneille.
Merci à vous. Bonjour Téhéran et bonjour à Madame Midani.
Voilà. Docteur Midani, on commence tout de suite par vous. Israël essaie de se forger une victoire au point qu'il considérait l'obtention d'un hôpital comme une victoire, alors que cette attaque n'a abouti à rien sauf à tuer des femmes et des enfants. Comment réagissez-vous ?
Effectivement, c'est l'ennemi le plus vil et le plus bas qui ne sait que s'attaquer aux femmes, aux enfants, aux hôpitaux, aux maisons des civils pour essayer de décrocher une petite victoire, si ce n'est qu'une petite victoire qu'il peut faire briller devant ceux qui le soutiennent d'une part et devant les peuples d'Israël. Alors c'est quand même une chose absolument incroyable. Crime contre l'humanité, nettoyage ethnique massif de Gaza, tapis de bombes systématique depuis 5 semaines déjà, ou presque 5 semaines. Invasion des hôpitaux, parce que ce n'est pas seulement à Gaza. Aujourd'hui, l'hôpital de Jenin aussi est encerclé. En Cisjordanie, donc, est encerclé et sous pression militaire. Ils ont envahi cet hôpital El-Shifa. Avant, ils ont bombardé quand même plusieurs hôpitaux, le rappelons-nous. C'est l'hôpital El-Marmadan. Les hôpitaux, tous les hôpitaux de Gaza sont pratiquement une cible pour l'armée israélienne. Ils ont introduit des chars et leurs chars ont été un par un pratiquement visés et anéantis par les combattants palestiniens. Je voudrais saluer quand même ce courage des Palestiniens qui se battent, à la fois ceux qui résistent parmi les civils et ceux qui se battent aussi pour leur indépendance, pour l'indépendance de la Palestine, et surtout pour pouvoir exister, et le droit d'exister, la tête haute et en toute dignité. Alors, je continue sur l'hôpital El-Shifa. Les Israéliens l'ont transformé en centre d'exaction, en centre de torture, ils ont arrêté tout le corps médical et toutes les personnes qui y étaient. Alors, je voudrais dire quand même, ceux qui étaient à l'hôpital c'est d'abord les enfants, au niveau des enfants, il y a les nouveau-nés prématurés dans les pouponnières, des enfants, des blessés qui étaient là, les gens qui viennent régulièrement pour les dialyses, les opérations de dialyse, tous les blessés qui étaient là, qui venaient, mais ajouter aussi à toutes les personnes qui ont été, qui se sont réfugiées dans l'hôpital, croyant que c'est un lieu sûr, comme c'est le cas dans les accords internationaux, que pendant les temps de guerre, les hôpitaux sont intouchables et sont des lieux sûrs. D'ailleurs, dans la barbarie de cet ennemi d'Israël, ils n'ont pas épargné non plus les lieux de culte. Je rappelle que les mosquées étaient particulièrement visées, aussi les églises qui sont normalement considérées comme les lieux de refuge sûrs pour la population. Donc en fait, tout ceci ne fait que aggraver, montrer déjà le vrai visage de cet État terroriste qu'est Israël, qui se targue aussi, qui essaye de trouver une victoire face aux hôpitaux, face aux blessés, face aux malades, face aux petits enfants qui viennent de naître. Dernier point aussi, ce matin, ils ont obligé tout le monde à quitter l'hôpital, en fait. Donc, ils ont une heure pour quitter. Alors, les gens qui sont, on ne sait pas comment ils ont pu sortir. Et c'est en fait pratiquement un décret de mort pour tous ceux qui sont à l'hôpital pour partir. Le centre de torture a été aussi, ils ont arrêté tous les cadres, les réfugiés, ils les ont interrogés sous pression. C'est vraiment lamentable et minable, je dirais, mais le plus minable aussi, ce sont les pays qui soutiennent cet État. Et ce sont les États-Unis avec tous les pays de l'OTAN. Et je déplore quand même que ces gouvernements qui prétendent être défenseurs de la liberté et des droits de l'homme, etc., Europe et partout, je parle de la France, je parle de la Belgique et tous les pays de l'Union européenne, qui soutiennent et qui n'osent même pas lever la voix pour exiger qu'il y ait les conditions de vie qui soient rétablies à Gaza et le respect du droit international humanitaire qui soit aussi appliqué au niveau de cette confrontation.
Merci beaucoup, Assar Bidani. Jean-Maxime Corneille, on assiste justement à une accentuation des attaques, des raids, des multiplications de la prise des hôpitaux et des crimes contre les civils. Est-ce qu'à votre avis, cette multiplication des crimes vise à cacher l'échec, un deuxième échec du régime sioniste sur plan militaire, sur le terrain et sur plan du renseignement?
Alors, dans le contexte de ce qu'il se passe, tout a été fait et tout a été fait aussi avec des méthodes qui sont celles éprouvées de 2006. C'est-à-dire que Israël, de fait, ne peut pas faire du renseignement dans la bande de Gaza. Et c'est aussi la raison pour laquelle Israël essaye de se défausser de ses responsabilités et d'engager des mercenaires pour faire, comme d'habitude, la guerre avec le sang des autres. Mais dans ce contexte, en réalité, tout a été placé depuis des années pour que Israël se retrouve face à la situation qui a toujours été la façon de faire la guerre d'Israël. C'est-à-dire miser sur un fait acquis et une sorte de blitzkrieg facile, alors qu'en réalité, ce n'est que très fragile. Ça avait marché durant la guerre des six jours, ça s'est inversé contre eux durant la guerre du Sud-Liban en 2006, et à présent, c'est la même situation. C'est-à-dire que là, nous avons une armée israélienne qui piétine, parce que le combat urbain est redouté de toute façon par toutes les armées du monde. Et dans ce contexte, la situation va faire que les opinions mondiales sont en train de se retourner contre Israël. C'est ce qu'a dit Scott Ritter d'ailleurs, Récemment, c'était il y a, oui, tout récemment, dans un live. La situation, c'est l'usure, c'est exactement comme à l'époque antique, c'est l'usure du courant artificiellement favorable qui est créé en faveur d'Israël en Occident. Et cette usure va amener la compréhension du fait que le modèle de société israélienne ne marche pas. C'était déjà la leçon de la guerre du Liban dans les années 1980, lorsque les serviteurs de l'État israélien, qui avaient été poussés à une certaine intervention toujours par des logiques cléricales et d'impérialisme, face à la dureté de la guerre, étaient obligés de dire à leurs donneurs d'ordre qu'ils allaient trop loin et que c'était impraticable, globalement, de ne se maintenir que par la guerre. Je pense que c'est la grande leçon de ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
Merci beaucoup. Madame Midani, alors, selon les dernières informations, Hamas a suspendu les négociations sur une pause humanitaire avec Israël suite à la multiplication des atrocités. Alors, est-ce qu'on assiste, comme vient d'en parler Monsieur Corneille, à une guerre d'usure? Israël est tombé dans un bourbier, d'après vous?
Israël est en train de. Oui, il est tombé dans un bourbier, mais de toute façon, il est en train de jouer le tout pour le tout, en fait. Hein. Malheureusement, soutenu par les Américains, mais aussi par les Européens, même si la situation se retourne, mais le nombre de victimes est tellement énorme que n'importe quelle personne qui a un minimum de cœur dans le monde, aujourd'hui, soutient les Palestiniens. Donc, d'ailleurs, la preuve en était aussi, c'est que toutes les rues et toutes les capitales du monde, même aussi dans toutes les villes, il y a des manifestations de soutien de plus en plus nombreuses, de plus en plus présentes, en fait, au peuple palestinien, à sa lutte. Je voudrais aussi dire aussi tous les stades de foot et d'autres, de tous les sports, se remplissent aussi de voix représentant, en fait, soutenant la lutte du peuple palestinien. Donc, Palestine est très présente partout, que ce soit en Algérie, que ce soit dans les pays du Golfe et aujourd'hui dans tous les stades de préparation au Mondial 2024. Hein. Donc ça c'est et donc c'est vrai qu'Israël se forge maintenant une réputation horrible qui fait que plus personne, même d'ailleurs, je dirais les nombreux juifs aussi se démarquent de plus en plus de cet État qui prétend être de défendre les Juifs. Et en fait, il s'avère que c'est un État qui est soutenu par les impérialismes pour tout le monde, en fait. Hein. Dernier point, en fait, il est clair que le colonialisme, c'est un colonialisme d'occupation et puis qui vise à sortir la population, comment dire, un exode de la population. C'est ce qu'il pratique depuis 1917, en fait, hein, depuis donc cette promesse par les Britanniques, les colons britanniques qui a été faite au mouvement sioniste, donc la création d'un État juif en Palestine. Depuis cette période, les agressions israéliennes terroristes contre la population et par des massacres massifs a toujours eu lieu visant à pousser les Palestiniens dehors pour s'approprier leurs terres, leur pays, etc. Maintenant, on voit au fond que pas seulement, ils continuent aussi à détruire les moyens de vie, donc sans parler électricité, eau, gaz, mais les communications, les circuits de distribution d'eau potable, la pollution des puits d'eau potable à Gaza et ailleurs, mais aussi maintenant, ils brûlent les terres et ils détruisent les plantations de manière à anéantir toute possibilité de vie sur ce territoire, sur le territoire de Gaza. Mais la population gazaoui, elle sait, le peuple palestinien expérimente ça donc depuis pratiquement 100 ans et plus de 100 ans. Et en fait, il a dans son ADN cette résistance qui s'accomplit de plus en plus et qui devient de plus en plus créative et de plus en plus résiliente, hein, ce qui fait qu'effectivement, on voit d'après les déclarations même des chefs de l'armée israélienne, des déclarations de gens qui sont en défaite, ils sont désemparés. Et c'est la raison pour laquelle ils s'enlisent en pratiquant les horreurs les plus graves, ce qui les discrédite encore plus et qui précipite leur défaite, hein, aussi bien sur le plan médiatique que sur le plan militaire, malgré les tonnes d'argent et les tonnes d'armement qui leur sont données par les pays qui les soutiennent.
Merci beaucoup. Jean-Maxime, alors c'est vrai que l'opinion publique mondiale a désormais de plus en plus un mauvais pressentiment à propos de ce récit des hôpitaux et du massacre des femmes et des enfants, des bébés. J'aimerais bien vous citer quelques déclarations du chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, de l'Iran. Israël et les États-Unis s'enlisent dans un bourbier à Gaza. Pourquoi ? Parce que la jeunesse palestinienne s'adapte aux nouvelles conditions et vient d'apprendre les règles de la guerre. Ils ont créé, selon ces mots, un bourbier pour l'Amérique et Israël, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les plans politiques, sécuritaires et en matière de renseignement. Je vous laisse réagir.
Alors bien sûr, en réalité, la guerre est douce à ceux qui ne l'ont pas fait, disait Erasme. La logique militarisée et surtout l'illusion que la technique peut tout faire et peut suppléer au courage des combattants, en réalité, ça ne dure qu'un temps. Dès que l'on commence à faire la guerre, on devient humble. Et quand vous poussez des situations à un tel désespoir que pour eux, mourir est très secondaire, quand vous êtes en plus le judaïsme, le propre des juifs, et qu'ils ont peur également, ils ont peur eux-mêmes de mourir, ils sont très matérialistes. Et c'est très difficile de transmettre un esprit réel de combat à une nation qui est basée sur une religion qui vous donne peur de la mort. En réalité, les véritables religions savent que la vie sur Terre n'est qu'un passage et que la mort est une délivrance. Mais nous sommes ici pour apprendre. Or, le judaïsme a fait le choix contraire, a fait le choix de l'accumulation des richesses matérielles. C'est une décadence cléricale. Mais c'est ce qui fait que la société juive en elle-même n'est pas du tout combative. Et c'est ce qui fait qu'Israël, aujourd'hui, cherche désespérément des mercenaires après avoir tenté de mobiliser l'Égypte pour faire le sale boulot à leur place, ou alors qu'ils ont tenté de raser l'entièreté de la bande de Gaza avec plus de bombes que l'on n'en avait jamais vu depuis quelque temps au Moyen-Orient. Mais on voit très bien qu'au final, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis et dans le sang. Dans ce contexte-là, les Palestiniens désespérés ont été radicalisés dans un désespoir qui en fait de bons soldats parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. Mais c'est aussi, si vous ajoutez ça à la condition du combat urbain, en effet, Israël a déjà perdu, semble-t-il, des centaines d'hommes. On parle au moins de 400 morts, ça veut dire 1200 blessés sans doute. Et on a évoqué jusqu'à 69 Merkava détruits ou endommagés, ça commence à faire beaucoup. Oui, Israël commence à avoir peur, bien sûr. Mais ce sont eux qui ont créé la situation dans laquelle ils sont. Et c'est la même situation, à certaines nuances près que durant l'Antiquité. Ils reproduisent toujours la même chose. Ils reproduisent un État basé sur une religion qui déteste tout ce qui n'est pas juif. Ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. C'est la raison pour laquelle leur projet est avant tout une décadence cléricale qui ne tient pas debout. Nous sommes en train de le vérifier là encore. Et nous voyons bien que, en termes de valeurs combatives, c'était la grande crainte de ces dernières années concernant tant les rabbins crainte par tant les rabbins que les serviteurs de l'État du côté militaire, c'est que l'illusion toujours de la société israélienne, comme à l'époque des pharisiens et des sadducéens, de confier la défense de leur société à d'autres qu'eux, alors qu'eux professent des points de vue qui sont anti-spirituels, le problème est qu'au final, les militaires finissent toujours par en vouloir aux mauvais théoriciens. C'est-à-dire que les mauvais théoriciens disent « Tsahal nous protégera toujours », alors qu'en réalité, Tsahal ne peut pas tout faire et qu'il serait bon de mettre une arme dans la main de certains rabbins fanatiques pour voir jusqu'à où leur fanatisme les conduit. Ça va se passer exactement comme durant l'Antiquité. Par contre, au niveau d'une lecture internationale, je crains, moi, autre chose, c'est que les mondialistes, les vrais illuministes, le messianisme juif, ont toujours voulu utiliser Israël pour sacrifier Israël en tant que mèche d'une troisième guerre mondiale. Et c'est bien plus ceci qu'il nous faut craindre aujourd'hui. D'où les efforts, je pense, d'intelligence de la part des États-Unis même, de la Russie et de la Chine, parce que personne n'a intérêt à une réelle guerre mondiale.
Merci.
D'où les luttes d'influence qui ont lieu en ce moment aux États-Unis.
Merci Jean-Maxime Corneille. Alors, dernier mot peut-être, nous n'avons que 2 minutes devant nous avec Hassan Midani. Une petite conclusion, 2 minutes.
Je pense que c'est la guerre de libération du peuple palestinien a commencé, ils continueront. C'est une étape importante qui a été franchie, jamais de retour en arrière, il n'y en aura pas. Ça d'une part, et que ce peuple a guéri dans cette lutte contre un ennemi féroce, devient de plus en plus efficace et de plus en plus importante, et il enregistre de grandes victoires malgré les grosses pertes en vie humaine et en sang, malheureusement, mais de toute façon, c'est le prix de la liberté, et je crois que ils y croient. Et ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils se battent pour leur liberté, ils se battent pour la vérité et pour leur indépendance. Alors que les autres se battent pour un pays qui n'est pas le leur. Et je voudrais dire quand même, il est important de constater que le mouvement d'émigration qui était venu pour vivre bien, etc., en Palestine.
Merci.
Et bien là, ils repartent vers les pays d'origine.
Je vous remercie, amis téléspectateurs et auditeurs. Excellente journée à toutes et à tous. À la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Molavo. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. Le derviche de la montagne. Un derviche vivait dans la montagne avec sa solitude pour toute compagne. L'endroit où il s'était retiré était rempli d'arbres fruitiers. Mais le derviche s'était promis. « Ô Seigneur, je ne toucherai pas aux fruits de ces arbres avant que le vent n'en fasse tomber. » Mais comme il avait oublié de dire « Inch'Allah », ce fut dur pour lui de respecter sa promesse. 5 jours passèrent. Le feu de la faim brûlait son ventre, mais le vent ne faisait tomber aucun fruit. Les branches se courbaient sous leur poids, mais le derviche prenait patience, soucieux de tenir parole. À un moment, le vent poussa vers lui une branche chargée des fruits les plus mûrs. C'est ainsi que le destin lui fit renier son serment. Ce fut l'instant où Dieu lui tira l'oreille. Il y avait, non loin de là, un groupe de voleurs
qui étaient en train de partager leur butin. Mais des soldats, prévenus par des espions, leur avaient tendu une embuscade et tous furent capturés, et notre derviche avec. On coupa la main droite et le pied gauche de chacun d'entre eux. En vain, le tour du derviche, on commença pour lui couper la main. Mais au moment où on allait lui couper le pied, un cavalier s'écria : « Que faites-vous là ? Celui-ci est un cheikh, un intime de Dieu. Qui lui a coupé la main ?» Le bourreau, plein de tristesse, se mit à lacérer ses vêtements tandis que le paye venait présenter ses excuses. « Dieu m'est témoin que j'ignorais cela. Pardonne-moi. » Le derviche répondit : « Je connais la vraie raison de ceci. Cette main est celle avec laquelle j'ai rompu mon serment. Que mon corps et mon âme soient sacrifiés à la volonté de Dieu. Toi, tu n'y es pour rien. C'est ainsi que, poussé par le désir de son estomac, le derviche perdit sa main. Combien d'oiseaux ont-ils laissé leur vie dans un piège à cause de quelques graines ? Ce derviche fut surnommé le derviche à la main tranchée. Bien des années plus tard, un homme vint lui rendre une visite impromptue et s'aperçut avec stupeur qu'il était en train de tresser un panier d'osier avec ses deux mains. Le derviche dit à son visiteur : « Pourquoi es-tu venu sans me prévenir ? Pourquoi a-t-il fallu que tu commettes semblable bévue ?» Son visiteur répondit : « Mon amour pour toi m'a fait oublier le respect qui t'était dû. » Le derviche lui dit en souriant : « Garde le secret de ce que tu as vu jusqu'à ma mort. » Mais d'autres personnes le virent par une fenêtre en train de tresser ses paniers, et son secret fut ainsi découvert. Voyant cela, le derviche s'écria : « Oh mon Dieu, tu es la sagesse. J'essaye de cacher les bienfaits dont tu m'as comblé. Mais toi, tu les dévoiles au grand jour. » Par la voix de l'inspiration, Dieu lui répondit : « Il y avait des hommes qui te prenaient pour un menteur et croyaient que c'était pour cette raison que tu avais été puni. Mais moi, je n'ai pas voulu que de tels blasphèmes se répètent, et c'est pourquoi les faveurs dont je t'ai comblé sont devenues manifestes. » Le miel du vin. Quelqu'un accusait un cheikh en disant : « Ce n'est qu'un hypocrite. Il boit du vin en cachette. Comment croire qu'un tel homme puisse aider ses disciples ? » Un fidèle lui dit : « Prends garde à tes paroles. Dieu ne permet pas d'avoir de telles pensées au sujet des hommes saints. Mais si ce que tu dis est vrai, ce cheikh n'est pas un si petit bassin pour que si peu de boue puisse le salir. C'est plutôt un océan. » « Oui, reprit l'autre, mais moi, je l'ai vu dans un état peu convenable. Il ne prie pas et a un comportement indigne d'un cheikh. Si tu ne me crois pas, viens avec moi ce soir et tu verras. Son occupation, c'est d'être hypocrite le jour et de pécher la nuit. » La nuit venue, ils se retrouvèrent sous la fenêtre du cheikh et le virent une bouteille à la main. L'homme cria alors : « Ô cheikh, la vérité se fait jour. Et toi qui nous disais que le diable mettait ses sabots dans la coupe de vin ? » Le cheikh répondit : « Ma coupe est si remplie que rien ne peut y pénétrer. » L'homme constata alors que la bouteille était pleine de miel et il fut pris de honte. Le cheikh lui dit : « avant d'avoir des regrets, va me chercher du vin. Je suis malade et j'en ai besoin. » Dans pareil cas, les choses ordinairement interdites deviennent licites. L'homme se rendit à la taverne, mais dans chaque tonneau, il ne trouva que du miel, aucune trace de vin. Il demanda au tavernier où était le vin. Quand ils eurent constaté cette étrange métamorphose, tous les buveurs de la taverne se mirent à pleurer et se rendirent auprès du cheikh. « Oh maître, tu es venu une seule fois dans notre taverne et tout notre vin s'est transformé en miel. Ce monde est plein de nourriture illicite, mais le fidèle ne doit pas y toucher. » La chaudière de ce monde. Les désirs de ce monde sont comme une chaudière et les craintes d'ici-bas sont comme un hammam. Les impieux vivent au-dessus de la chaudière dans le dénuement et dans la joie. Les riches sont ceux qui apportent tes excréments pour nourrir le feu de la chaudière afin que le hammam reste bien chaud. Dieu leur a donné l'avidité. Mais toi, abandonne la chaudière et rentre dans le hammam. On reconnaît ceux du hammam à leur visage qui est pur. Mais la poussière, la fumée et la saleté sont les signes de ceux qui préfèrent la chaudière. Si tu n'y vois pas assez bien pour les reconnaître à leur visage, reconnais-les à l'odeur. Ceux qui travaillent à la chaudière se disent « Aujourd'hui, j'ai apporté 20 sacs de bouse de vache pour alimenter la chaudière. Ces excréments alimentent un feu destiné à l'homme pur. Alors, est comme ces excréments. Celui qui passe sa vie dans la chaudière ne connaît rien à l'odeur du musc. Et s'il la sent, par hasard, il en devient malade. »
Thank you. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.